Frères et sœurs, faut-il lutter contre le mal? Dans la parabole de l'Évangile de ce jour, le maître dit aux serviteurs d'attendre, apparemment un peu passivement, jusqu'à la moisson. Alors, Jésus nous invite-t-il à rester les bras croisés devant le mal? Vous savez qu'on ne peut pas lire un passage de la parole de Dieu en le détachant de tous les autres passages, sinon on peut faire des grands contresens. Et dans bien d'autres passages, nous voyons très clairement que Jésus ne reste pas passif devant le mal. On le voit guérir les malades, on le voit expulser les démons, et puis voilà, beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans cette parabole de l'ivraie et du bon grain ? Alors, je vous propose trois éléments de réponse à cette question. Première chose, le plus important n'est pas de lutter contre le mal, mais de faire le bien. Il nous arrive d'être tellement focalisés par le mal à extirper que nous ne voyons plus le bien réalisé. Alors on peut être omnibulé, il y a cette ivraie, ça nous gêne de la voir, donc on veut. Et puis on ne voit plus le bon grain, que le blé qui est en train de pousser, alors on piétine tout pour enlever l'ivraie. Alors Jésus clairement nous dit non, attention, votre lutte contre le mal, c'est bien de lutter contre le mal, mais encore faut-il ne pas. C'est pas à n'importe quelle condition en écrasant tout. On le voit en nous-mêmes déjà. Notre première préoccupation, ce n'est pas de fuir le péché. Notre première préoccupation, c'est de faire le bien, c'est d'aimer Dieu. Notre vie chrétienne, si c'est juste ne pas faire le mal, c'est très restrictif. Notre regard, c'est vers Dieu qui doit se porter, pas vers le mal. Alors, quelquefois, on est tellement omnubilé, et c'est vrai qu'on a plein de défauts, qu'on ne voit plus le bien. Alors, certainement, une première chose, c'est de se tourner vers le bien et pas donner plus d'importance qu'il ne faut au mal. C'est vrai aussi dans l'éducation, vous savez bien. Il ne s'agit pas de reprendre et toujours quand réprimer les défauts, mais d'aider, de faire grandir ce qui est bon, de faire grandir les qualités, voilà, les dons des uns et des autres. D'ailleurs, dans l'appellation même de cette parabole, vous connaissez, quelquefois, je vois un titre là, l'ivraie. C'est une vision un peu pessimiste. Ce n'est pas la parabole de l'ivraie, c'est la parabole du bon grain. Parce que l'ivraie, elle est là, c'est juste au milieu. Mais ce qui était au point de départ, c'était le bon grain. Ce qui sera à l'arrivée, l'ivraie, elle sera brûlée. Mais ce qui sera dans le grenier, c'est le bon grain. Donc, quelquefois, nous sommes omnubilés un petit peu par ce qui ne va pas et nous ne voyons plus que l'ivraie. Alors que nous sommes appelés à voir. Avoir le bon grain, avoir le bien, à pas être omnubilé, une autre façon encore de le dire, par le démon. Et c'est vrai qu'il est présent. Et l'Église, dans sa foi, sait qu'il y a des anges mauvais qui nous font tomber. Mais ça ne doit pas occuper le champ de notre conscience au point d'en oublier Dieu, sinon ça n'a pas de sens. Donc, premier élément, c'est bien sûr il faut lutter contre le mal, mais ce n'est pas ce qui est premier. C'est d'abord de tourner notre regard vers Dieu et de lutter pour le bien. Deuxième élément, c'est qu'il y a un mélange de bien et de mal et que ce terrain, on pourrait dire, est le terrain propice où se développe la miséricorde. Alors nous, souvent, on aimerait mieux les choses un peu claires. Il n'y a que du bien, que du mal, voilà, c'est blanc, noir, voilà. Mais en fait, dans notre propre vie, déjà, on voit que ce n'est pas comme ça. Tant qu'on est sur Terre, bon, il faut un peu de réalisme. Il n'y a personne qui est parfait, voilà. Il y a eu des sectes à telle ou telle époque. À l'époque de Saint-Augustin, c'était les donatistes, par exemple, qui voulaient une église un peu élitiste, voilà, ceux qui jamais avaient renié Jésus, etc. Saint Augustin dit non, non, l'Église, elle n'est pas que pour les parfaits, sinon je ne pourrais pas y être. Donc, quelque part, il y a ce accepter, de fait c'est comme ça, c'est, il y a un mélange de bien et de mal. Mais plus profondément, c'est un terrain propice pour le développement de la miséricorde. Parce que le meilleur des mondes, pour l'homme, c'est là où il n'y a pas de mal. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça le meilleur des mondes. Le royaume, hein, ce sont les paraboles du royaume. Le royaume, ce n'est pas le lieu où il n'y a pas de mal d'abord. Le royaume, c'est le lieu où il y a de l'amour. Et l'amour de miséricorde en particulier, se développe souvent, enfin nous apprenons de Dieu à aimer, aussi souvent dans des situations un peu difficiles, dans des situations de souffrance, de, voilà. Et c'est là que, justement, si Dieu permet, c'est un grand mystère, on n'est pas très fiers de, toujours devant le mal et la souffrance, mais Dieu, pour Dieu, le plus important, c'est un monde où il y a de l'amour. Ce n'est pas un monde où il n'y a pas de mal. Ça, c'est, il me semble, une deuxième chose, parce que la toute-puissance de Dieu est une toute-puissance dans l'ordre de l'amour, pas dans l'ordre de la brutalité ou d'une domination. Vous pouvez relire certainement la première lecture, il y a des passages très beaux. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, etc. Tandis que toi, Seigneur, toi, tu disposes de la force. Mais tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Mais justement, Dieu, sa puissance, est, on pourrait dire qu'elle est au service de son amour. Voilà. Alors ça, c'est un deuxième élément. Ce monde où il y a du bon grain de livret, c'est un monde, quelque part, un terrain propice où Dieu désire que nous apprenions la miséricorde. Nous découvrions quelque chose aussi d'abord de sa propre miséricorde à lui. Troisième élément, c'est de faire la différence entre lutter contre le mal et lutter contre ceux qui font le mal. Hein, la différence entre le péché et le pécheur. Là. Parce que dans la première lecture et l'évangile, on met beaucoup en valeur la patience. Ce n'est pas que Dieu reste les bras croisés, c'est que Dieu donne le temps aussi aux uns et aux autres pour se convertir. Dieu espère pour nous, on pourrait dire. Sa patience est une volonté de nous sauver toujours. Alors, parce que là encore, dans l'Église, un peu plus loin dans son évangile, au chapitre 18, saint Matthieu parle aussi de l'excommunication. Il y a des sanctions quelquefois pour ceux justement qui font tomber. Mais le but de l'excommunication, ce n'est pas de mettre dehors de façon définitive. C'est de frapper un coup un peu fort pour faire réfléchir et dire « Mais non, si tu vas là, tu vas dans le mur. » Alors voilà, on ne peut pas te laisser faire ça et te laisser entraîner d'autres gens derrière toi qui vont dans le décor. Donc le but de l'excommunication, ce n'est pas d'exclure. Le but, c'est de faire réfléchir pour que justement... au terme, au moment du jugement, il puisse entrer dans le royaume avec tous les fils du royaume, comme dit Jésus dans l'Évangile. Donc la confrontation au mal, on voit, c'est une école de patience, d'humilité. Et Jésus ne nous invite pas à lutter contre ceux qui font le mal sans patience, d'une façon un peu brutale, comme peuvent le faire les hommes. Mais justement de faire œuvre de patience. Avec cette perspective du jugement, dans l'encyclique que Benoît XVI a écrite sur l'espérance, il y a un passage où il parle de différents lieux où peut se développer l'espérance. Il parle du jugement comme d'un lieu d'espérance. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais il y a une justice, il y a une justice. Alors... Peut-être, quelquefois, nous voyons le mal à l'œuvre, mais Dieu a une vue plus large. Lui, il voit l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, donc il voit le début et la fin. Et il sait que peut-être, en ce moment, c'est le Tour de France, donc il y en a peut-être qui ont, donnent l'impression de gagner des étapes, mais au bout du compte, nous savons que c'est Dieu qui est à la victoire. C'est lui qui, c'est son amour qui sera victorieux. Donc, Dieu ne s'inquiète pas trop, peut-être, de telle victoire apparente à tel ou tel moment de ceux qui font le mal, parce qu'il sait que de toute façon, il y a la victoire. Et c'est notre foi en la résurrection. Nous savons que Jésus nous a obtenu la victoire en passant par la croix. Alors, pour cette semaine, je vous propose, en guise de conclusion, de peut-être faire attention à votre façon de regarder et regarder les personnes. Est-ce que nous regardons un petit peu comme Jésus, avec cette espérance, sans tout de suite juger, parce que le jugement, ce n'est pas pour maintenant, ça sera au terme de notre vie, mais pour l'instant, Dieu nous invite à nous convertir. Mais dans notre regard, est-ce que déjà nous fixons les gens, bon, c'est un mauvais, il sera toujours comme ça, voilà. Est-ce que, ou peut-être pouvons-nous demander à Jésus et à Marie de venir convertir notre regard pour que nous sachions davantage voir le bien et regarder les gens avec davantage d'espérance. Alors demandons cette grâce pour cette semaine.